L'instant bien-être en Touraine avec Céline David. Une émission pour apprendre à s'écouter, pour découvrir des techniques de bien-être et des praticiens de la région.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans votre émission autour du bien-être en Touraine. Bonjour Maëva.
Bonjour Céline, comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, très bien, aujourd'hui on va parler de terre, enfin plus précisément on va parler de géobiologie.
Géobiologie.
Mmh. Et en fin d'émission nous parlerons du prochain salon autour du bien-être, du bio et des thérapies douces à Montbazon, les 26 et 27 mai, puisque nous recevrons dans cette émission le vice-président de l'association Hachi, Yannick Ternier.
Super.
Mais avant, Maëva, est-ce que tu as déjà une idée de ce qu'est la géobiologie ?
Non, pas vraiment. Je ne connais pas la géobiologie. Je me doute que ça a à voir avec la Terre, mais j'en sais pas bien plus.
Alors oui, bah déjà, très bonne approche. Effectivement, en fait, géobiologie vient de trois mots grecs. Mm-hmm. On a géo, donc qui est la Terre, bien sûr. Bios, qui est la vie. Et logos, l'étude. Donc ce qui nous fait l'étude de l'influence de la Terre sur la vie.
Ok.
Alors, au XXe siècle, la géobiologie étudiait les interactions géologiques et cosmiques de la Terre avec le vivant. Mmh. Et puis, elle a connu ensuite une évolution avec le monde moderne, c'est-à-dire tout ce qui est électromagnétique, la chimie, les téléphones mobiles, la radioactivité, les antennes relais, etc.
Ok.
Donc, pour résumer, aujourd'hui, la géobiologie étudie et analyse l'influence des ondes nocives sur le vivant, pour le mettre en sécurité.
D'accord.
Donc, tu vois, comme tu vois, il y a un lien important avec la santé et le bien-être.
Bien sûr. Du coup, qu'est-ce que tu entends par onde dans ce que tu viens de nous dire ?
Alors, onde, ça va comporter tout ce qui est rayonnement ionisant. Donc, les veines d'eau souterraines aussi vont émettre des ondes. Mm-hmm. Les failles souterraines, la radioactivité naturelle qui provient du sol. Il y a les champs magnétiques, les champs électriques et les courants telluriques.
Et est-ce que ces ondes sont toutes nocives ?
Alors en fait, pour partir de l'origine, tout être vivant a une énergie électrique.
Ouais.
On peut le voir d'ailleurs sur les électroencéphalogrammes, mmh. les électrocardiogrammes.
Ouais.
Et la rencontre de notre énergie électrique avec les rayonnements et les champs électromagnétiques de la Terre, ça va influer directement sur nos cellules.
D'accord.
Et ce qui peut provoquer des déséquilibres et perturber aussi les organismes vivants. Donc, pas seulement les humains, mais aussi les plantes, micro-organismes, les animaux aussi.
D'accord. Et du coup, la géobiologie, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ?
Alors, ça a toujours existé. Mmh. On trouve sa trace donc dans des livres, par exemple, dans des livres sacrés hindouistes, mmh. Où les maharajas et les empereurs mongols l'utilisaient pour la construction de leur palais.
D'accord.
Alors, tout était pris en compte, l'orientation du site, ses formes, son architecture et même son organisation intérieure.
D'accord.
Alors, de plus en plus aujourd'hui d'architectes reviennent à cette science et prennent en compte tous ces éléments. Mmh. Et ils s'appellent des architectes écologues.
D'accord.
Alors, il y a aussi les Chinois qui ont recours systématiquement à la géobiologie à travers le monde depuis très très longtemps, hein, dans les constructions, dans des Chinatown, dans l'implantation de leur commerce pour la réussite de leur commerce et pour les immeubles d'affaires.
D'accord. Et est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont utilisé ça, je vais y arriver, la géobiologie dans la construction ?
Alors, en Occident, par exemple, un peuple de Toscane mm-hmm. Faisait paître leurs moutons dans un champ pendant une année. Et ils observaient ensuite leur foie et leurs poumons. Qui ont des rôles de filtre l'organisme. Ouais. Et en observant leur foie et leur poumon, ils regardaient s'il était sain ou pas. Si le foie et le poumon étaient sains, le lieu de vie était construit à cet endroit.
D'accord.
Et puis un autre exemple que je peux te donner aussi, ouais. Les Indiens d'Amérique avaient la connaissance instinctive de l'importance du lieu de vie parce qu'ils observaient le comportement de leurs chevaux avant de planter leur tente.
Okay.
Si les chevaux étaient agités, s'ils étaient nerveux, s'ils les trouvaient vraiment pas, tranquille, les Indiens se déplaçaient jusqu'à trouver un endroit où les chevaux seraient beaucoup plus paisibles et pour établir leur bivouac.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des lieux qui sont meilleurs que d'autres pour notre bien-être de manière un peu générale?
Alors, de manière générale, il y a un concept de base en géobiologie à prendre en compte, c'est le concept de géopathie. Donc pour faire simple, on peut dire qu'une géopathie, c'est un point quelconque sur le terrain où le niveau vibratoire va être faible.
D'accord.
Okay. Il peut être nocif pour des personnes qui s'y trouvent. Donc, la géobiologie, en fait, est la science responsable de localiser et d'analyser ces points et leur niveau vibratoire.
D'accord. Du coup, est-ce qu'on peut dire que la géobiologie, c'est une science ?
Alors, c'est la science de l'influence du lieu de vie sur le vivant. Et c'est aussi un art de vivre. Elle travaille donc sur la prévention, sur l'importance de vivre dans des lieux sains pour optimiser son bien-être et sa santé.
D'accord, super, et ben on va s'arrêter un court instant, on va faire une petite pause musicale et puis on vous retrouve juste après sur La Rage, sur le 99.1 FM ou sur www.la-rage.fr. vous êtes de retour sur La Rage sur le 99.fm ou sur www.la-rage.fr. Aujourd'hui, je suis avec Céline David dans son émission Bien-être en Touraine et on parle de géobiologie. Donc en géobiologie, on prend aussi en compte la pollution due à l'activité humaine.
Oui, 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 l'énergie naturelle et l'énergie cosmotellurique. Et la pollution humaine, c'est la pollution électromagnétique. Donc le but est de trouver un équilibre, on va dire, vibratoire avec toutes ces énergies pour obtenir un lieu de vie agréable et calme. Donc le géobiologue peut également travailler aussi sur des nuisances provenant de phénomènes inexpliqués.
D'accord. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe une étude en géobiologie ?
Alors, la géobiologie va par exemple s'intéresser aux lieux sur lesquels nous passons le plus de temps. Par exemple, 80% de notre temps, on le passe entre notre habitation et notre travail. Donc, le géobiologue va recenser les lieux précis, que ce soit l'emplacement du lit, le bureau, le canapé ou le fauteuil qu'on va utiliser le plus.
D'accord.
Et ensuite, le géobiologue va déterminer, à l'aide d'instruments précis, ça peut être l'antenne de l'échelle, les baguettes, on pourra détailler ça tout à l'heure. Donc, il va observer si ces zones sont perturbées ou non. Et s'il n'y a pas de perturbation, on parle alors de zone neutre.
D'accord. Et du coup, un lit qui n'est pas en zone neutre, qu'est-ce que ça donne ? Quels sont les effets ?
Alors, les personnes qui dorment en zone perturbée, peuvent ressentir différents symptômes. Ça peut être une fatigue chronique, une fatigue dès le matin alors qu'on a passé 8 heures à dormir, des douleurs nocturnes, des difficultés d'endormissement, des crampes, enfin tout un tas de choses.
Et donc que propose le géobiologue en voyant des zones perturbées ? Pas facile à dire.
Il n'y a pas de solution standard, en fait. C'est vraiment au cas par cas. Chaque soin est personnalisé en fonction des résultats de l'étude géobiologique. Le spécialiste va prendre en compte la formologie, donc au sens mobilier, objet, décoration, et aussi la structure de l'habitation.
D'accord.
Alors pour le
lit.
Pour le lit par exemple en question, donc le géobiologue peut proposer un meilleur emplacement si c'est possible dans la pièce et également travailler sur la réduction des pollutions électromagnétiques. On pourra en rentrer aussi en détail sur ce sujet.
D'accord. Et du coup, est-ce que aussi les plantes peuvent influencer l'énergie de l'habitation ?
Ah ben oui, absolument. Oui, on entend d'ailleurs parler de plus en plus de plantes dépolluantes.
Ouais.
Et c'est vrai qu'elles améliorent la qualité de l'air.
D'accord. Oui, c'est vrai, on entend souvent ça en premier lieu. Pour la qualité de l'air, c'est bien d'avoir des plantes dans sa maison. Mais du coup, comment ça marche ?
Alors en fait, certaines plantes vont absorber les polluants de l'air par leurs feuilles. Et les micro-organismes vivant dans les racines vont convertir ces polluants en produits organiques qui vont nourrir la plante. Donc la plante va émettre ensuite de la vapeur d'eau et va améliorer le taux d'humidité de la maison.
D'accord.
C'est un cycle naturel comme ça qui est très intéressant et c'est vrai que c'est important de découvrir et de le prendre en compte.
Super. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction à la géobiologie. On va de nouveau écouter un peu de musique et puis on se retrouve juste après pour l'interview avec Yannick Ternier. À tout à l'heure sur le 99.1 ou sur www.la-rage.fr. donc on revient sur la rage après une petite pause musicale. Vous écoutez bien le 99.fm ou alors vous nous écoutez depuis notre site www.la-rage.fr. Je suis toujours avec Céline David pour son émission Bien-être en Touraine et aujourd'hui avec Yannick Ternier, son invité. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour Maëva.
Bonjour, donc bienvenue dans notre émission Bien-être en Touraine. Donc déjà, j'avais envie de poser cette question. Pour quelles raisons est-ce qu'on vient demander une étude en géobiologie ou une harmonisation? Généralement, les gens viennent pour quelles raisons?
Alors la première des raisons qui pousse les gens à faire appel à moi, c'est le fait d'être pas bien, d'avoir des pathologies.
Oui.
Ils sont malades, ils se sentent pas bien dans leur maison.
Mmh.
Ça, c'est une des premières raisons. L'impression aussi, enfin une impression bizarre dans leur maison. C'est
d'accord.
Comme ça qu'ils décrivent ça.
Un ressenti.
Un ressenti de mm-hmm. mal-être. Bon, ça, c'est généralement les premières choses que j'entends pour un appel à un géobiologue. Hein.
D'accord.
Ensuite, y a ceux qui sont déjà malades. Puisque 56% des maisons peuvent amener des pathologies.
Hein. Oui.
Ceux qui sont qui présentent déjà des pathologies et que la médecine normale, on va dire allopathique, ne peut pas résoudre les problèmes, font appel donc au géobiologue.
D'accord.
Afin qu'on détermine ce qui ne va pas dans la maison et ce qui peut influer sur leur santé.
D'accord. On parlait tout à l'heure de l'importance de la position du lit, par exemple. C'est quelque chose, quand une personne est malade, justement, qu'il faut observer.
Alors, de préférence, quelqu'un qui est malade, on va orienter le lit la tête à l'est.
Oui.
Et quand quelqu'un va bien, on oriente le lit la tête au nord.
Ah, voilà. Voilà, donc ça, c'est un bon conseil à suivre. Merci Yannick. Donc ça, c'est important, effectivement, à détecter. Alors, je voulais savoir aussi, au niveau des plantes, est-ce que voilà, c'est important de disposer de plantes dans le lieu de vie?
Alors, il existe un certain nombre de plantes qui vont permettre d'harmoniser la maison, de rendre les pièces beaucoup plus saines, de dépolluer certaines pièces.
Oui.
Pour aider les gens, j'ai mis un certain nombre d'astuces sur mon site internet qui s'appelle magnétisme-du6-thérapie.fr où vous allez pouvoir retrouver dans l'onglet géobiologie toutes ces astuces et notamment les plantes. Vous avez un classement des plantes qui est fait pièce par pièce en fonction, par exemple, de la salle à manger, qu'est-ce que l'on met, qu'est-ce que l'on met dans le bureau, qu'est-ce que l'on met dans les chambres, etc.
D'accord.
Ce qui va permettre aux auditeurs de pouvoir faire des corrections et de rendre leur maison un peu plus saine.
Ah bah c'est parfait ça. Oui, est-ce que, par exemple, une personne qui va travailler beaucoup à l'ordinateur, est-ce qu'il est conseillé aussi de mettre une plante à proximité de l'ordinateur ou pas? Enfin,
Ça peut être intéressant, mais c'est une question de goût, en fait. Hein.
D'accord.
au niveau de l'ordinateur, on a un appareil qui va émettre des ondes électromagnétiques.
Mm-hmm.
Ce qui va être intéressant, c'est de mettre en place des choses qui vont permettre justement de corriger les effets d'ondes électromagnétiques.
Ah, voilà.
Au niveau des plantes, je n'ai pas la conviction que les plantes peuvent résoudre ce problème-là. Mm-hmm. Par contre, on peut travailler avec des cristaux, donc les minéraux, hein, et puis avec d'autres petites choses qui ont été développées par des laboratoires qui fonctionnent très bien.
D'accord. Donc il y a toujours des solutions, ça c'est bien à savoir. Il faut les connaître, mais c'est parfait. Alors comment est-ce qu'un géobiologue pratique? Est-ce que c'est voilà avec l'antenne de l'échelle, des baguettes? Comment est-ce que ça marche pour une étude en géobiologie?
Alors, je dirais que c'est une affaire de goût, hein, puisque, en fait, chaque géobiologue va avoir ses outils favoris, plus ou moins favoris. Et comme il va privilégier un outil, il va plus se servir de celui-là. Moi, je travaille volontiers avec l'antenne de l'échelle, avec les baguettes de coudrier, avec les baguettes coudées.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que tout ça?
On va prendre les baguettes. Avec les baguettes, on fait de la radiesthésie. C'est-à-dire que l'outil est une antenne avec laquelle on va capter les énergies, bonnes ou mauvaises, et la personne qui l'utilise a développé un ressenti puissant qui lui permet d'analyser ce que lui transmet la baguette. Donc, avec les baguettes de coudrier, hein, le coudrier, c'est le nom noble du noisetier, les anciens trouvaient l'eau, ça c'est le grand c'est classique.
La baguette de sourcier, c'est ça?
Exactement, mais on ne fait pas que ça avec cette fameuse baguette. Hein, on va pouvoir trouver un certain nombre de géopathies, puisqu'on parle de géopathies en géobiologie. On les trouve, on les détermine et on va les placer directement sur un plan pour pouvoir après les appréhender et les éradiquer.
Alors, est-ce que c'est avec ces baguettes que on sent si elles se rapprochent ou si elles s'éloignent?
Alors, en effet,
est-ce que c'est ça?
En effet. Alors, pour les baguettes coudées, les baguettes coudées, elles se rapprochent, elles se croisent ou elles s'écartent en fonction de ce qu'on appelle la convention mentale de la personne qui les utilise, c'est-à-dire de ce qu'elle pense pour la question qu'elle va poser à ses baguettes, entre guillemets. Elle va avoir un type de réponse. Pour certains, la baguette qui s'ouvre, ça sera un oui. Pour certains, la baguette qui s'ouvre, ça sera qui s'ouvre, ça sera un non. C'est-à-dire que quand ça se croise, ces personnes-là, ça sera un oui.
D'accord. Hein.
Mais ça, c'est la convention mentale de chaque personne. Il n'y a pas de règle établie. Hein. On se sent bien avec cette convention mentale et on travaille comme ça. Idem avec le pendule. Là, quand on fait de la radiesthésie avec le pendule et qu'on travaille avec le pendule en géobiologie, on va avoir des conventions mentales et des réponses qui conviennent à chaque personne qui utilise. Le oui, ça tourne en sens solaire, le non anti-solaire, en fonction de la personne.
Ça dépend des personnes, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a en géobiologie des lieux plus difficiles que d'autres à corriger, ou est-ce que non, chaque lieu est vraiment différent et
Alors, chaque lieu est absolument différent.
Oui.
Il y a en effet des lieux qui sont beaucoup plus difficiles à corriger que d'autres. Alors, c'est soit lié à la surface, parce que plus c'est grand, plus ça demande de travail.
Et oui.
Soit lié au nombre de pathologies, donc de géopathies, que l'on va trouver sur le lieu. Donc si on est sur une zone qui est extrêmement polluée en termes de géopathie, on va y passer beaucoup de temps, donc ça sera plus difficile à faire. Et on va avoir des géopathies différentes. Il y en a qui sont assez costauds à traiter, d'autres qui sont faciles. Après, il y a un autre phénomène qu'on aborde en géobiologie qui amène de la difficulté. C'est quand on aborde tous les phénomènes de formologie, d'une part, les formes et des bâtiments, les objets, etc. Et derrière, il y a un autre mot, hein, qui est le mot paranormal, alors qui fait peur, mais il ne faut pas avoir si peur que ça, hein, où ça va amener des difficultés supplémentaires. Donc il y aura d'autres choses à traiter qui sont un petit peu plus costauds, mais il ne faut pas se faire trop peur avec ça, hein, ça ne sert à rien.
Le géobiologue travaille sur différents plans en fait. Hein.
En fait, il y a, la partie terrain, c'est-à-dire qu'on appelle cosmotellurique, ce qui vient du sol et ce qui vient du soleil, hein, les rayonnements. Après, il y a la partie bâtie, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la médecine de l'habitat, intégrant la formologie, intégrant la mémoire des murs, intégrant plein de choses. Et puis, les objets, les bijoux, tout ça. Et après, il y a ce qu'on appelle le paranormal, avec tout ce qui s'est passé dans la maison, toutes ces énergies qui traînent, qui sont stagnantes dans la maison, qui font baisser le taux vibratoire de la maison, puisqu'on parle de taux vibratoire dans ce cas-là. Et dans les phénomènes paranormaux dont les gens ont très peur, ou certains se délectent, bah, il y a ces fameuses entités qui peuvent amener à baisser le taux vibratoire de la maison. Donc il va falloir faire un travail pour libérer ces entités, afin qu'elles puissent aller là où elles doivent être, et non pas dans le lieu d'habitation.
Voilà, donc ça c'est le travail du géobiologue.
Exactement.
Très bien. Combien de temps en moyenne prend une étude? Alors évidemment, ça dépend de chaque lieu, mais en moyenne, est-ce qu'il y a une petite fourchette?
Alors la moyenne. Alors étudier une maison, un lieu de vie, ça prend à peu près les 2 heures.
Oui.
À peu près.
D'accord. D'accord. 2 heures, il faut compter 2 heures. Une personne, par exemple, qui veut une étude, comment ça se passe? Il y a plusieurs visites, il y a un travail au préalable, sur plan
Alors, dans le passé, j'allais sur les lieux pour faire le devis, l'étude, et je revenais pour corriger. Mm-hmm. Parce que les gens ne sont pas toujours disponibles. Avec les agendas, c'est pas toujours facile. En fait, ça avait un coût.
Oui.
Et puis, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, moi, je travaille en radiesthésie. Je demande les documents aux gens, ils me les envoient. Et je travaille en radiesthésie depuis chez moi. J'étudie complètement le lieu, je marque tout sur le plan. Et après, j'interviens sur la maison.
Voilà, oui.
C'est-à-dire que je ne me déplace qu'une fois. Et quand je me déplace, je contrôle ce que j'ai trouvé et je corrige.
D'accord, d'accord.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est que la radiesthésie?
La radiesthésie est une science qui utilise des objets tels que le pendule, les baguettes, l'antenne de l'échelle ou forme de pensée, l'esprit, pour capter... Ce qui se passe dans un lieu, par exemple, puisqu'on parle de géobiologie, est déterminé où se trouve, en géobiologie, ce qui pêche, la géopathie, déterminer l'endroit où elle est, ce que c'est, et puis après, travailler pour supprimer cette géopathie.
D'accord, très bien. Donc ça permet d'étudier les énergies de la maison à distance, si j'ai bien compris.
En effet, mais aussi sur le lieu.
Et aussi sur le lieu.
Oui, oui, puisqu'on va s'en servir directement sur le lieu aussi, hein, pour confirmer ce qu'on a trouvé, bien sûr. Hein.
Donc du coup, ça se passe en 2 temps. Hein. Donc un premier temps qui se fait depuis, du coup, sans être sur la maison pour faire un devis. Et un deuxième temps où vous vous rendez sur l'habitat ou le lieu en question et où vous confirmez ce que vous avez trouvé en étant chez vous avant. Ouais. Et où vous faites les transformations nécessaires.
Les corrections. Oui.
Les corrections nécessaires pour rendre le bon équilibre.
Harmoniser la maison. Oui.
La maison. Okay.
En fait, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour moi d'être tranquille chez moi pour étudier. Je suis pas dérangé. Et une fois que j'arrive, forcément, comme j'ai la connaissance complète du terrain et de ce qui s'y passe. Je peux être plus tranquille pour faire les corrections et forcément répondre aux questions de mes clients qui ont souvent énormément de questions parce qu'ils sont comme nos auditeurs.
Ils découvrent, ils ne connaissent pas,
donc ils posent beaucoup de questions. Donc là, c'est beaucoup plus confortable pour moi pour travailler dans ce cas-là.
Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple d'une consultation?
En géobiologie.
En géobiologie, bien sûr.
Y a un jeune homme qui m'a contacté il y a quelques temps. Alors, ce jeune homme souffrait hein, de troubles du sommeil. Il avait un sommeil qui n'était pas réparateur, des céphalées. Il se sentait mal au travail et forcément chez lui.
Ça fait beaucoup.
Donc quand il est venu me voir, il était dans un état de fatigue intense. Et donc il m'a parlé de ce qui se passait. J'ai posé quelques questions et je lui ai demandé de me donner des documents pour que je puisse travailler. Donc je demande le plan de l'appartement. Là, c'était un appartement. Et quelques photos. Et puis moi, je me suis rendu compte en étudiant son appartement qu'il venait d'acheter, hein. C'est un bien tout neuf sur Tournord, qu'il y avait des problèmes géobiologiques. Donc, pour ceux de nos auditeurs qui connaissent, je vais utiliser les termes, hein, donc il y avait des cheminées cosmotelluriques dans son appartement.
Alors, il faut expliquer en même temps, hein, parce que sinon on va perdre la moitié de nos auditeurs.
La cheminée cosmotellurique, c'est un phénomène géopathique invisible à l'œil. C'est un tube géant, hein, puisqu'il fait 150 mètres de profondeur enfoncé dans le sol et 150 mètres à peu près au-dessus du sol. Il s'agit d'un phénomène qui permet, on appelle ça les poumons de la Terre, ça permet des échanges d'énergie entre la Terre, entre le tellurique et le cosmique. C'est pour ça, d'où le nom de cheminée cosmotellurique. Les cheminées sont à 90%, 99% même, négatives, donc elles amènent une énergie négative dans un lieu. Mm-hmm. Ça fatigue énormément. Il y avait aussi des problèmes de réseau. Donc, alors, dans les réseaux, il y a un réseau très connu, c'est le réseau Hartmann, il y a le réseau de Curie, il y a le réseau de Palm, le réseau de Perret, le réseau de, et d'autres, hein, le réseau de Fisman. Des réseaux, il y en a toute une pléiade. Donc, le problème qu'il y avait sur son petit appartement, c'était un problème avec le réseau Hartmann, le réseau de Curie. Faut savoir que quand on a des croisements négatifs de réseau en un point, on a une énergie négative qui se développe et qui irradie le lieu. Donc il y avait en même temps ces choses-là. Et puis, sur cet appartement, il y avait un autre problème, mais électromagnétique cette fois. D'une part, généré par le matériel du jeune homme, hein, puisque... il avait beaucoup de matériel électronique au pied du lit, à la tête du lit, et le lit, de l'autre côté de la cloison, il y avait la chaîne stéréo, la télé...
La Wi-Fi, j'imagine.
La Wi-Fi, et comme c'est un féru d'appareils électroniques, il y en a plein l'appartement. Donc il ne pouvait pas avoir un sommeil réparateur, d'autre part, à cause de tout ce matériel qui était à la tête de son lit, et derrière la cloison.
Oui.
Donc il fallait corriger l'emplacement du lit, bien mmh, entendu,
et, oui,
et faire des corrections au niveau des appareils.
Mmh, d'accord. Oui, oui, c'est pas parce qu'il y a une cloison que les ondes ne passent pas. C'est vrai que
il faut au moins 3 mètres entre un appareil et la tête du lit.
Et oui.
Ah, au moins 3 mètres.
Mmh. Donc ce jeune homme va mieux, j'imagine.
Ah oui, il rayonne maintenant.
Et du coup, les corrections, elles ont lieu... du coup, qu'est-ce que concrètement, comment ça se passe dans un cas comme ça? Comment on corrige Est-ce qu'on peut corriger, par exemple, les réseaux Hartmann et les réseaux Curie qui se croisent et qui amènent des énergies négatives? Ou est-ce qu'on peut seulement amener d'autres choses qui ramènent de l'énergie positive?
Alors, concernant réseau Hartmann et Curie, eh bien, il va falloir neutraliser... les zones qui sont géopathogènes, donc ça, aucun problème. Pour répondre à votre question, ça se fait. Les cheminées, il y a encore une fois aucun problème. On peut les déplacer, donc ça c'est super. Du coup, ça se corrige tout de suite.
Parfait.
Et l'énergie remonte. Après, le plus compliqué, c'est les ondes électromagnétiques, puisqu'on vit dans une société moderne où tout le monde a du matériel. Et là, il faut apprendre, on va dire, à se raisonner par rapport aux appareils, savoir les éteindre quand on n'en a pas besoin, et puis se protéger des champs électromagnétiques que l'on reçoit. De ceci, là, je parle des antennes, de la téléphonie, etc. Donc, on va utiliser des stratagèmes et des petits appareils dans les cas où c'est vraiment très très impactant. Il y a des cas où c'est peu impactant, et là, bon, on apprend à vivre en éteignant les appareils.
On s'adapte aussi.
Voilà.
Ah, oui. Des êtres d'adaptation aussi. Donc, très bien, merci Yannick. Est-ce qu'on peut parler un peu du salon bien-être bio et thérapie douce qui a lieu à Montbazon bientôt, les 26 et 27 mai? Il va y avoir beaucoup de thérapeutes, de conférences et d'ateliers, je crois.
Ah, bien sûr, oui, oui. Alors là, c'est la deuxième édition du salon Hachi, hein, puisque notre salon s'appelle le salon Hachi. Mm-hmm. Hachi, ça veut dire 8 en japonais, hein, c'est le symbole de l'infini et de l'harmonie. C'est aussi le titre d'un film qui parle d'un chien. qui est très très important. Hein. Ça parle du cœur. Hein. Et j'invite les gens à regarder ce film. Je dois dire que le nom n'a pas été choisi au hasard, puisqu'on avait vu le film. Et donc, un gros cœur, d'où notre symbole.
Oui.
Concernant Hachi. Donc, sur le salon Hachi cette année, il y aura 90 exposants. Ils représentent 40 thérapies différentes. Il n'y a pas que des thérapies, bien sûr, puisque cette année, en nouveauté, il y a l'alimentation.
Ah oui.
Il y a bien sûr tout ce qui est compléments alimentaires, et puis plein d'autres choses qu'on va pouvoir voir, diverses et variées, hein, qui sont présentées. On aura cette fois 24 conférences tout au long du week-end. Ça sera un rythme donc de 12 par jour.
Ah oui, du samedi matin au dimanche soir.
Oui, et puis oui. Cette année, on a un docteur qui vient faire une conférence aussi le dimanche, qui est assez intéressante sur l'alimentation. La nouveauté du Salon Hachi, en fait, pour 2018, ce sont les ateliers bien-être. En fait, on propose des créneaux horaires à des thérapeutes. Donc, ils ont une heure. Et ils convient les visiteurs à pratiquer le yoga, la gym pilates, la sophrologie et autre chose comme ça, les constellations familiales.
Ils vont pouvoir tester, expérimenter, découvrir.
Ouais, voilà. Ouais. Donc ça va être super.
Bien sûr. Donc c'est le salon, j'imagine, le plus important de la région.
Alors, le salon le plus important, en 2018.
Cette année, oui.
90 exposants, c'est assez important, on va dire que c'est énorme. D'ailleurs, ça demande un effort considérable à organiser. Hein.
Oui, j'imagine.
C'est le plus grand salon d'Indre-et-Loire, ça c'est sûr, à entrée gratuite, puisque, je le rappelle, l'entrée du salon est gratuite.
Très bien, super. Donc... Voilà, donc n'hésitez pas à venir les 26 et 27 mai à Montbazon, à l'Espace à tout cœur. Et merci beaucoup Yannick pour cette intervention, c'était passionnant. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de l'ARAGE, ainsi que trouver toutes les coordonnées donc, de celles de nos invités sur www.larage.fr. Merci beaucoup Yannick, merci Maëva.
Merci, à bientôt.
Merci Céline, merci Maëva.